Vers Babylone. À propos de l'œcuménisme. Par André Gibert. Article paru dans le Messager évangélique 1963. L'unité des chrétiens est à l'ordre du jour, mais il est visible que la plupart de ceux qui en parlent n'ont pas saisi ce qu'en dit l'Écriture, si même ils reconnaissent l'autorité de celle-ci. Les efforts multipliés en vue de porter remède aux divisions de la chrétienté tendent, en dépit de tout ce que leur intention peut avoir de louable, à promouvoir une confusion qui sera consommée dans la Babylone apocalyptique. Grand A. L'unité des chrétiens existe malgré leur défaillance à la montrer. Rien n'est pourtant plus précieux que cette unité, mais ce n'est nullement une vue idéale dont nous aurions à nous rapprocher le plus possible. C'est un fait positif qu'il appartient aux croyants de mettre en évidence en rejetant tout ce qu'on a bâti ou qu'on veut bâtir en dehors. L'unité des chrétiens existe. Elle est formée de tous les vrais croyants et d'eux seuls. Si mêlés qu'ils soient à des professants sans vie dans le monde dit chrétien, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. De Timothée 2, verset 19. Ne laissons pas entamer la certitude réconfortante que donne aux fidèles, dans les temps les plus fâcheux, cette première face du sceau apposé sur le solide fondement de Dieu qui demeure. Point 1. Unité de la famille de Dieu. Dieu a des enfants au sein des grandes masses, comme dans les fractions les plus émiettées de la chrétienté, et ils sont un, en réponse à la prière de Jésus en Jean 17, parce qu'ils possèdent, étant nés de nouveau, la même vie que Christ, une même nature avec lui. Leur unité sera manifestée en gloire aux yeux du monde. Verset 23. Mais elle est effective dès maintenant, afin que le monde croie que Jésus est l'envoyé du Père. Verset 21. Et nous avons non à la créer, mais à donner au monde la preuve de son existence. Jean 17, verset 23. Afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. » Cette unité de la famille de Dieu est en effet extérieure à ce monde. Celui-ci est sollicité de croire, et comme il refuse de le faire, il devra connaître, au jour où les croyants seront consommés en un, ce qu'il n'aura pas voulu croire auparavant. Leur unité est donc, dans son principe même, le fait de ceux qui ne sont pas du monde, comme moi, dit Jésus, je ne suis pas du monde. Jean chapitre 17, verset 14. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Chapitre 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ainsi, contrairement à ce qui est couramment affirmé, c'est seulement comme étrangers au monde, tout en étant dans le monde, que les croyants peuvent apporter le message divin au monde. Point 2. Unité de l'Église, corps de Christ. À un autre point de vue, il constitue l'Église, ou assemblée, de Dieu, qu'il s'est acquise au prix du sang de son Fils. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Cette Église est constituée sur la terre depuis la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu du ciel baptiser les croyants pour être un seul corps, 1 Corinthiens 12, verset 13, et elle y séjourne jusqu'à ce que le Seigneur vienne la prendre avec lui au ciel. 1 Corinthiens 12, verset 13, car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Cette unité du corps de Christ, comme celle de la famille du Père, est parfaite et inaltérable. Il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4. Tous les croyants sont liés par le Saint-Esprit à la tête glorifiée, Christ dans le ciel. Eh bien, vouloir faire une unité qui existe, n'est-ce pas nier qu'elle existe? Travailler à faire l'unité des chrétiens, c'est méconnaître le travail de Dieu. Elle est à vivre et à manifester par ce qu'elle englobe. Petit c. Infidélité des chrétiens et fidélité de Christ. Car il est trop évident, hélas, que cette unité n'est pas apparente par la faute des croyants, et cela depuis bien longtemps, pour ne pas dire depuis les tout premiers temps de l'histoire de l'Église ici-bas. Si l'Assemblée était dans son état normal, tel qu'on la voit au début des Actes, tous les croyants, et eux seuls, montreraient la même vie, exprimeraient à la table du Seigneur l'unité du corps de Christ, et l'Esprit agirait avec puissance au milieu d'eux. Ce temps n'est plus. Les chrétiens ont failli au témoignage qu'ils devaient rendre. Il n'en reste pas moins que, chacun d'eux étant porteur ici-bas d'un témoignage qu'il rendra dans la mesure où il sera vivant, tous, membres de la famille de Dieu, membres du corps de Christ, sont solidaires et sont exhortés à garder l'unité de l'Esprit parce qu'il y a un seul corps.
Le corps de Christ, qui est l'Assemblée.
Il l'aime comme son épouse, il s'est livré pour cette Église une, il la chérit, il la nourrit, il la purifie. Rien n'est plus rafraîchissant, alors que le cœur se dessécherait vite dans les travaux et les combats, que cette pensée de l'amour de Christ pour l'Église. Il est constant, fidèle, plein de sollicitude et de vérité. L'Église ne subsiste qu'en vertu de cet amour immuable. D'où vient, disait il y a plus d'un siècle, un cher serviteur de Dieu, qu'on demande de tant de côtés où est l'Église? De ce que Christ ne l'a pas oublié. Citation de G.V. Wigram. Pour elle, il a vaincu la mort, Satan, le monde et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Il la voit telle qu'il va se la présenter. Soyons remplis de l'Esprit de Christ, de telle manière que nous discernions en tout croyant un enfant de Dieu, un membre du corps de Christ, et que nous l'aimions comme tel. Point 4. Garder l'unité de l'Esprit et exprimer qu'il y a un seul corps. Ainsi garderons-nous
l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix.
Cela entraîne non point que nous puissions nous prêter mutuellement appui pour mal faire, mais au contraire pour nous encourager à obéir ensemble. Cela n'entraîne pas davantage que nous reconnaissions comme chrétiens ceux qui manifestement n'ont ni la vie ni l'Esprit. Les apôtres, Pierre, Jean, Jude, aussi bien que Paul, dénoncent avec force les faux chrétiens, les faux frères furtivement introduits. Galates 2, verset 4. Glissés parmi les fidèles. Jude, verset 4. Galates 2, verset 4.
Et cela à cause des faux frères furtivement introduits, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus.
Jude, verset 4.
Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ.
Seulement, dans la confusion présente, il n'est pas toujours aisé de les démasquer. C'est ici qu'intervient la seconde inscription du sceau.
Qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur.
De Timothée 2, verset 19. La certitude que le Seigneur connaît ceux qui sont siens ne peut autoriser à mettre sous le couvert de l'unité de l'esprit l'union entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur. La séparation du mal est individuelle, quiconque. Mais le fidèle est invité à
poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
L'amour souffrira à ne pouvoir marcher avec des personnes qui, quoique certainement chrétiennes, n'obéissent pas à l'injonction de se séparer du mal, mais ce serait renier cet amour même que de les encourager dans l'iniquité dont il faut se séparer. Prenons garde à 1 Jean 5, verset 2.
Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est car nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements.
Il n'y a pas d'autre chemin parce que Dieu ne veut pas de communion entre la lumière et les ténèbres. De Corinthiens 6, verset 14.
Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres?
Ceux qui obéissent se trouvent ensemble sur le fondement qui demeure. Ils auront à leur disposition les ressources et les instructions de la parole données de tout temps à l'Église. Qu'ils soient deux ou cent ou des millions ne change rien aux privilèges et aux responsabilités de cette Église dont ils ont, même en faible nombre, à témoigner qu'elle existe. L'expression de l'unité du corps se trouve essentiellement dans le seul pain à la table du Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 17.
Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain.
Ceux qui y participent témoignent par là de l'existence du corps de Christ, bien qu'ils aient conscience de ne pas en être les seuls membres. Ils ont la responsabilité de marcher en conséquence dans l'obéissance à la parole. Ils traduisent par ce symbole cette unité qui est faite, qui n'est pas à faire. Il leur appartient de la montrer en pratique dans l'amour et la vérité. Grand B. Cette unité n'a rien à voir avec les efforts de l'œcuménisme. Les vérités que nous venons de rappeler sont familières, nous aimons à le penser, à la plupart de nos lecteurs. Elles sont à retenir avec une vigilance accrue au moment où se développent les efforts dont nous parlions en vue de regrouper les nombreux corps entre lesquels se fractionne la chrétienté. Le grand courant du mouvement œcuménique entraîne la majorité des églises et congrégations protestantes, les anglicans, les églises orthodoxes d'Orient, tous adhérant à un conseil œcuménique des églises chrétiennes, fondé en 1927, et, sans qu'il y ait encore collaboration effective, il attire l'attention, intéressée et inquiète à la fois, de l'Église romaine. Point 1. Désirs légitimes et desseins inconséquents. Ces efforts ont une belle apparence. Ils veulent répondre aux besoins d'union ressentis par le grand nombre, besoin qui s'accompagne d'un sentiment sincère de confusion et de peine devant le morcellement de la chrétienté. Une note en bas de page. On répète en bien des milieux la prière de l'abbé Couturier. Que vienne l'unité visible du royaume de Dieu, telle que Christ la veut, par les moyens qu'il voudra. Le pape Jean XXIII, annonçant la réunion du concile de Vatican II, parlait des efforts généreux et croissants faits de plusieurs côtés afin de reconstituer l'unité visible de tous les chrétiens suivant les vœux du divin Rédempteur. Bulle Humana Salutis, 25 décembre 1961. Fin de la note. Les promoteurs se réfèrent à des passages de l'Écriture, notamment à la prière sacerdotale de Jean XVII. Beaucoup ont une certaine notion de l'unité existante qui englobe tous les vrais croyants et eux seulement, ce qu'ils appellent, à tort du reste, l'Église invisible, et ils reconnaissent volontiers que toutes les églises particulières sont coupables du péché de division. Allons plus loin. Ce mouvement profite des effets d'un incontestable travail de l'Esprit de Dieu pour donner aux croyants conscience que la venue du Seigneur est imminente et les pousser à l'attendre. Les échos du cri de minuit se prolongent. Que celui qui entend dise « Viens !» L'unité de l'Église va être consommée dans la gloire et nous pouvons bien nous associer à la prière de ce chrétien qui demandait à Dieu qu'il y eût, dans ces temps de la fin, une puissante action de son esprit en vue de la venue du Seigneur, ajoutant « Il faut, pour la gloire de ton Fils, qu'il trouve ici-bas, quand il viendra, un peuple qui l'attende. » Paroles extraites de l'écho des conférences de Vevey de novembre 1902. Comment ne pas désirer que les vrais enfants de Dieu se trouvent effectivement unis comme des étrangers sur la terre, mais prêts à entrer dans leur patrie et vivant leur ineffable destin dans l'amour, la foi et l'espérance? Il semble que la seule chose à dire serait « Nous sommes un, laissons tomber toutes les séparations édifiées par les hommes, entre croyants, et gardons au contraire soigneusement, ensemble, la vérité divine, dans la séparation entre les croyants et le monde. » Or voici qu'apparaissent les plus étranges inconséquences. Point 2. Membre du corps de Christ et membre d'une Église, deux notions très différentes. La première est qu'on dit « Cherchons à être un, tout en conservant notre individualité respective, comme groupe, qu'il mêle ou non croyants et simples professants. On proteste du désir d'union, mais en tant que réformés, orthodoxes, anglicans, méthodistes, etc., et catholiques romains s'ils y consentent. Cela est si vrai qu'on s'élève avec force contre tout prosélytisme, entendant par là toute tentative pour faire passer quelqu'un d'un groupe dans un autre. Une myopie obstinée empêche de voir que l'existence des églises contredit l'unité de l'Église. Ceux qui parlent le plus d'abaisser les barrières entre les groupes ne cessent de mettre en avant leurs églises, chacune avec sa foi propre, sans parler de ses rites. Jamais il n'a été plus nécessaire de bien distinguer entre les personnes, laïques ou ministres et prêtres de tout rang, et les systèmes dans lesquels elles sont engagées. Reconnaissons l'œuvre puissante du Saint-Esprit pour vivifier des âmes et les effets bénis de la grâce pour en faire marcher dans un chemin de dévouement actif et de sainteté personnelle. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qui est fait pour lui, mais la notion de « membre du corps de Christ » « Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier, échappe. Les individus ne sont considérés que comme membres d'une Église, ou, si l'on va jusqu'à les considérer comme membres de ce corps de Christ, c'est par l'intermédiaire d'une Église. » Une note en bas de page. « Le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs, est-il dit. » 1 Corinthiens 12, verset 14.
« Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. »
« Plusieurs membres, mais non plusieurs corps. Ce serait un non-sens. » Fin de la note. Ce sont les églises qui ont à s'entendre entre elles. L'objectif, selon le propos d'un œcuménisant des plus autorisés, serait que chaque église reconnaisse dans les communautés dont elle est séparée de véritables églises du Christ. Autrement dit, on cheminerait vers l'unité en consacrant, au sens fort du mot, d'abord la division. Sans doute, les dirigeants du mouvement œcuménique espèrent à la longue fusionner entre elles les dénominations protestantes et les unir ensuite dans un vaste ensemble avec les églises orthodoxes et romaines, mais dans la tolérance mutuelle de leurs différentes vues, ce qui revient à perpétuer les divisions tout en supprimant les étiquettes, ou bien, et c'est une autre inconséquence, à présenter comme unité le mélange d'éléments inconciliables. Point 3. L'unité du corps de Christ n'est ni l'unification extérieure d'églises visibles, ni la mise en commun de certaines convictions aux dépens des vérités fondamentales du christianisme. D'où viennent, en effet, les divisions sinon du fait que l'esprit de l'homme a supplanté l'action de l'esprit de Dieu? La foi chrétienne a été interprétée par les uns d'une manière, par les autres d'une autre, chaque dénomination la confessant selon sa conception particulière. Et maintenant, semblant mettre, comme l'écrit un publiciste catholique, autant d'ardeur à se réconcilier qu'elles en ont mis jadis à se diviser, ces églises disent « Rapprochons-nous, mettons en commun le plus possible de nos convictions, tout en conservant les particularités qui présentement nous séparent. Or, ces particularités touchent le plus souvent au fondement du christianisme. Peu importe, pourvu que les différents groupes collaborent à l'unification extérieure. Les plus éclairés, il est vrai, admettent bien qu'il y a une vérité et qu'il faut la garder en commun. Mais la vérité, c'est Christ, tel que le Saint-Esprit le fait connaître par la parole de Dieu. Or, on consentirait, pour permettre le rapprochement, à faire coexister des opinions divergentes sur la divinité de Christ, sur son humanité, sur son existence historique même, aussi bien que sur la réalité de sa résurrection, sur la rédemption, sur l'inspiration des Écritures, sur la signification de la croix, sur le jugement éternel. Ou encore, on s'évertuera à présenter la vérité d'une façon accessible à tous, ce qui est légitime, mais qui expose au danger de la déformer. En réalité, qu'on le veuille ou non, tout se fait par compromis sur la vérité scripturaire. Citons ici un militant de l'œcuménisme, un orthodoxe. Ceux qui cherchent la communion dans la prière et l'unité dans l'amour deviennent des frères unis dans l'amour bien que divisés dans leur foi. Fin de la citation. Nous répondons avec l'Écriture, dans sa lettre et dans son esprit, « Le Christ est-il divisé ?» 1 Corinthiens 1, verset 13. Et encore, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Éphésiens 4, verset 13. N'avons-nous donc plus à combattre pour la foi qui a été enseignée une fois aux saints? Jude, verset 3. La parole de Dieu n'est-elle plus la vérité? Jean 17, verset 17. Sanctifiez-les par la vérité. La parole est la vérité. Aimez tous les frères, honorez tous les hommes. 1 Pierre 2, verset 17. Oui, certes, que Dieu nous l'accorde. Cet œcuménisme-là est permanent. Toujours il a été prescrit que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour, mais aussi et même d'abord, tenez ferme dans la foi. 1 Corinthiens 16, versets 14 et 13. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez hommes, affermissez-vous, que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. Mettre la foi en morceaux pour unir des hommes sur ces ruines, prétendre mieux vivre en tarissant les sources de la vie, mettre les spéculations des hommes au rang de la vérité de Dieu, discuter et disséquer sa parole au lieu de se soumettre à elle, est-ce à cela qu'un vrai chrétien voudrait souscrire? Sans doute on déclare hautement vouloir unir tous ceux qui invoquent le seul Seigneur d'une Église universelle, mais que d'équivoque dans cette invocation même. L'apôtre Paul enjoint à Timothée de rallier ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, non que leur cœur soit meilleur que les autres, et qui se prétendent supérieurs, mais ce sont ceux qui obéissent simplement à la parole en se séparant de l'iniquité manifestée. L'équivoque est d'autre part, revenons-y, dans la signification même de l'Église, cette Église universelle dont on parle de façon très vague et où l'on ne voit en réalité que le corps extérieur se réclamant du nom de Christ dans le monde, mais que lui ne saurait reconnaître comme son corps à lui, qui est un corps céleste. On dit bien qu'il y a une Église invisible et des Églises visibles, et on veut rassembler celles-ci. Mais pour faire quoi? Cette Église invisible? Nous voilà en pleine contradiction, et loin, en tout cas, de l'Église véritable. Les uns parlent d'Église, à fédérer, perpétuant la division tout en affirmant cette Église invisible. Les autres tendent à grouper les Églises dans une super-Église autoritaire, d'autres enfin à tout fondre en une vaste synthèse, sans qu'il soit plus question d'Église invisible, mais toujours l'unité effective, actuelle, est obstinément laissée de côté. C'est comme si, tout en se lamentant d'avoir laissé une eau se corrompre diversement dans des canaux multiples, envahis par des déchets de toute provenance, on faisait toutes sortes de plans pour retrouver l'eau pure en combinant ces eaux polluées au lieu de revenir à la source. Grand C, position différente en face des tentatives de rassemblement des Églises. En face de ce mouvement, deux positions contraires apparaissent dans la chrétienté. Point 1. Les évangéliques. Un certain nombre d'églises ou dénominations repoussent ces tendances, mais pour se résigner à l'état de choses présent, tenu pour fâcheux sans doute, mais auxquelles elles restent associées en se maintenant comme groupement particulier. Elles se rencontrent pour certaines activités, l'évangélisation surtout, mais elles tiennent pour nécessaire que chacune garde son organisation propre en un corps séparé. Que les chers croyants qui s'y rattachent veuillent bien réfléchir sur la gravité du propos de l'un d'eux. Rendant compte d'un congrès de l'Union des chrétiens évangéliques qui groupe la plupart des dénominations en question, il dépeint cette vision émouvante de l'Église de Jésus-Christ, diverse dans son organisation humaine et ses formes cultuelles, mais une et fraternelle autour de son chef incontesté, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur des croyants. Fin de citation. Sommes-nous donc autorisés à donner à l'Église de Jésus-Christ une organisation humaine et des formes cultuelles particulières? La parole et ses enseignements ne suffisent-ils donc plus, et faut-il des arrangements et des traditions? Point 2. Rome. L'autre position est celle de Rome. L'Église romaine se définit une, catholique et apostolique. Une note en bas de page. L'Église orthodoxe, répartie en églises nationales autonomes situées en presque totalité en Orient, a la même conception de son unicité, de sa catholicité, de son apostolicité que l'Église romaine, et elle revendique une tradition plus solide et une liturgie supérieure. Elle refuse de reconnaître la suprématie de l'évêque de Rome, le pape. Au demeurant, elle invoque Marie et les saints. Sa prétention à représenter la seule Église est singulièrement contradictoire avec sa présence dans le Conseil œcuménique des Églises. Fin de la note. Elle s'estime le seul corps, elle seule. L'illusion est immense de ceux qui pensent garder leur doctrine et leur forme tout en s'unissant à Rome, ou qui espèrent que Rome se transformera pour se mettre à leur unisson. L'Église romaine a son œcuménisme à elle. Elle se proclame l'Église mère, seule héritière et continuatrice de l'Église des apôtres. Elle s'affirme indispensable pour qu'une âme trouve Dieu. Elle reconnaît dans son chef le pape, le vicaire de Jésus-Christ, infaillible quand il proclame un dogme en cette qualité. Elle forme un édifice grandiose, supérieurement administré et appelé, pense-t-elle, à dominer le monde. Elle s'adore véritablement elle-même et prescrit comme premier devoir l'obéissance absolue à ce qu'elle ordonne. Une telle Église ne peut concevoir l'unification que par le ralliement de son bercail, la maison paternelle, comme vient de le dire après d'autres son nouveau pontife, par tous ceux qu'elle appelle maintenant les frères séparés, après les avoir impitoyablement combattus comme hérétiques. Elle sait s'adapter, elle modifiera s'il le faut telle de ses structures, mais pour consolider l'ensemble, aussi bien que pour pouvoir être présentée aux chrétiens séparés d'elle sous un aspect attrayant et faciliter ainsi leur réintégration sincère dans la vérité et la charité au corps mystique de l'unique Église catholique. Citation tirée de l'homélie du pape Paul VI le jour de son couronnement, 1er juillet 1963. Mais malgré les avantages pris par ce que l'on appelle le progressisme, c'est-à-dire un certain accommodement avec les idées modernes, sur l'intégrisme, c'est-à-dire l'attachement irréductible au dogme, elle se renierait si elle abandonnait sa tradition, sa hiérarchie, ses dogmes, celui de l'infaillibilité pontificale, comme celui de la présence réelle dans le sacrifice de la messe, l'intercession des saints, le culte marial, l'Immaculée Conception et l'Assomption de la Vierge, Marie médiatrice des grâces, la réversibilité des mérites, etc. Si encore, face à cette puissance, l'autre moitié du monde christianisé, celle qu'entraîne le courant œcuménique, avait à opposer une saine doctrine. Mais nous l'avons vu, plutôt que de s'accorder pour jeter bas tout ce qui n'est pas le fondement du christianisme, se flatter de faire vivre ensemble, sur des formules ambiguës, les conceptions les plus diverses de ce qu'on peut appeler à peine des vérités chrétiennes, mais des notions religieuses aussi larges que possible. Elle infléchit même doctrines et pratiques vers le catholicisme, comme en témoignent les communautés religieuses protestantes et le renouveau liturgique. Comment, sans une doctrine saine et sûre, résister à l'absorption par Rome? Ne voit-on pas déjà celle-ci mettre la main, grâce au Concile, sur l'œcuménisme, comme un bâtiment puissant aspire dans son sillage une embarcation plus légère? Point 3. Où est la place des fidèles? Ainsi, où des églises qui admettent que la vérité est quelque chose de relatif, et qui contredisent par leur existence l'unité de l'Église, ou une Église qui se prétend la seule, tous les autres chrétiens étant par elle schismatiques, orthodoxes, anglicans, ou hérétiques, protestants en général. Sous peine d'accepter l'erreur ou le mensonge, la place des fidèles n'est pas plus ici que là, mais dehors, vers Christ et Christ seul. Béni soit Dieu de ce que le Seigneur reconnaisse des esclaves à lui, d'Antiatire, qu'il y ait dans Sardes, ceux qui n'ont point souillé leur robe, et que des cœurs lui ouvrent la porte au sein de Laodicée. Mais quel que soit le nombre de ses fidèles, cela ne change rien à la condition de ses assemblées, représentant autant de systèmes qui vont être jugés. Point 4. Quelques dangereuses illusions. Ne nous y trompons pas, du reste. Vouloir une unité de tous les croyants visible ici-bas se heurte à deux écueils insurmontables. Le premier est que, les véritables croyants n'étant connus que du Seigneur, il en est qui seront laissés dehors. L'autre est que, pour la même raison, de simples professants seront nécessairement englobés. Où vous ne reconnaissez que les adeptes d'une doctrine particulière, ceux qui prononcent « Shibboleth » comme vous, et c'est la secte. Où vous acceptez tous les baptisés, et c'est l'Église de multitude. En fait, il est significatif que l'on n'entend pour ainsi dire jamais parler, dans les propos œcuméniques, de la nouvelle naissance par une affligeante et grandissante méconnaissance des vérités fondamentales du salut. Une note en bas de page. La base de toute l'action œcuménique est, selon une expression employée dans la conférence d'introduction de la réunion du Conseil œcuménique des Églises à Montréal le 12 juillet 1963, l'existence d'une communauté de baptisés. Fin de la note. Hélas, que de gens abusés qui se tiennent pour entrer dans le royaume de Dieu et que l'on traite comme tels sans qu'ils soient nés d'eau et de l'esprit. Comment, dans ces conditions, le culte, selon la parole, pourrait-il être connu? Le trait probablement le plus marquant qui, caractéristique de Rome, s'étend peu à peu à toutes les organisations ecclésiastiques, si diverses qu'elles soient, est le souci de leur influence terrestre. Partout l'homme s'élève et frustre Christ de sa seigneurie. L'Église, comme qu'on la conçoive, passe avant Christ, et l'Église universelle visible dont on rêve plus qu'on ne la définit, et pour cause, on la voit comme une grande institution de la terre. Il est patent que les Églises sont toujours davantage préoccupées par les problèmes du jour, aussi bien économiques que sociaux et politiques, comme si leur tâche était d'y fournir des réponses, ce qui est proprement mettre de côté l'Écriture et refuser la qualité d'étranger. Faire du bien à tous les hommes n'est pas s'immiscer dans leurs démêlés. Si les croyants, où qu'ils se trouvent, ne peuvent que ressentir douloureusement les divisions entre chrétiens, ne se mêlent-ils pas souvent à ce sentiment, celui que ces divisions sont un facteur dangereux de faiblesse pour la chrétienté en tant que puissance mondiale? C'est le seul, d'ailleurs, qui puisse animer les chrétiens de nom. Ils ne voient dans l'Église qu'un organisme de ce monde, et dans le christianisme, un élément moral utile. La chrétienté est envahie par l'irréligion, alors qu'on la veut plus forte encore que dans le passé, et on essaie de parer à cette menace en s'unissant. Il est juste de relever que bien des âmes pieuses, mais mal instruites, sont enflammés par l'espoir de voir le monde entier converti à l'Évangile de la grâce, l'Église élargie aux dimensions de l'humanité, et le royaume de Dieu ainsi instauré. C'est une idée séduisante qui malheureusement ignore l'enseignement de l'Écriture. Celle-ci montre clairement l'Église comme associée à un Christ actuellement rejeté, qui l'enlèvera auprès de lui, lorsqu'il sera sur le point de prendre en main le pouvoir pour établir le royaume de justice et de paix sur la terre, mais par le jugement. Il est présentement assis à la droite de Dieu, attendant jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Jusque-là, la grâce est offerte. Le monde n'en veut pas. Les rachetés sont retirés du présent siècle mauvais, comme dit Paul aux Galates. Chapitre 1, verset 4.
Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père.
Ils échappent à la corruption qui est dans le monde. 2 Pierre 1, verset 4.
Afin que, par elle, vous participiez de la nature divine ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise.
Ils ne sont pas du monde. Jean 17, verset 16. Grand D. Ce que dit l'Écriture du sort de la chrétienté. Point 1. Le manquement de l'Église à son témoignage, conséquence de l'oubli de sa vocation céleste. Nous venons par là de toucher à la raison profonde de l'état dans lequel se trouve la chrétienté. L'Église a oublié que sa vocation est céleste, et exclusivement céleste. Celle qui, par appel et par rachat, est étrangère à ce monde, s'est établie sur la terre, y a placé toute ou partie de son espérance, perdant de vue
l'espérance de votre appel.
Elle a laissé le monde la pénétrer. Elle s'est liée à lui, livrée à pousser avec le froment. Le levain a fait fermenter la pâte, le grain de moutarde est devenu le grand arbre servant de repère aux oiseaux du ciel. Toutes sortes de fausses doctrines sont écloses. Des multitudes s'appellent chrétiennes sans avoir la vie de Dieu, et la chrétienté mondanisée, épanouie en ses diverses formes, usurpe le nom d'Église. Elle sera jugée par le Seigneur d'après ce titre dont elle se pare, mais elle n'est pas l'Église. Celle-ci, qui a tristement manqué à sa mission, se trouve toujours au milieu d'elle, connue seulement de son chef, qui s'en occupe avec fidélité et sollicitude.
Un ennemi a fait cela.
Parce que les serviteurs ont dormi, ou trouvé un remède.
Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson.
Il est impossible de rétablir ce que l'homme a gâté, mais il est toujours possible d'agir en accord avec ce qui demeure. Il ne peut être question de refaire l'Église primitive, mais bien de vivre comme l'Église permanente, avec le secours de Dieu et selon que l'enseigne sa grâce. Nous n'avons pas à nous étonner de l'état des choses. Il a été annoncé par les apôtres, le mal ayant commencé dès leur époque et n'ayant cessé d'empirer. L'abandon du premier amour, Éphèse, la mondanisation, retardée par les persécutions, Smyrne, l'emportant ensuite, Pergame, l'idolâtrie associée à la profession chrétienne au sein d'un vaste système religieux corrompu et dominateur, Thyatire, le formalisme mort gagnant ceux qui étaient sortis de ce système, Sardes, le peu de force d'un témoignage fidèle et méprisé, Philadelphie, l'orgueil spirituel excluant Christ, Laodicée, autant de chapitres d'une histoire profondément triste, à ne considérer que le travail de l'homme, mais merveilleuse à considérer la patience et la constance de celui qui marche au milieu des sept lampes d'or. Il est prêt à venir, jugeant Jézabel et les siens, surprenant Sardes comme un voleur, vomissant de sa bouche Laodicée, mais chargé de promesses pour les vainqueurs. Il vient, il n'est pas venu encore, la chrétienté n'est pas encore mise de côté par Dieu. Si grave que soit son état, si grande que soit sa responsabilité, elle est encore l'objet de son support, et les avertissements sont donnés pour la pousser à se repentir. Mais sa ruine ne fait que s'accentuer malgré les apparences, les hautes prétentions et les activités multipliées. Le témoignage philadelphien participe à la ruine, ce qui n'autorise en aucune façon à l'abandonner. Au contraire, écoutons celui qui dit
« Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »
Point 2. L'apostasie consommée après l'enlèvement de l'Église. Quel sera le terme? Le lecteur attentif du Nouveau Testament se convaincra que le dénouement se fera non point par le triomphe sur la terre d'une Église restaurée, mais par la venue du Seigneur, d'abord pour enlever les siens, ensuite pour juger ceux qui habitent sur la terre. Ce sera le jour du Seigneur de 2 Thessaloniciens 2, et
« Il ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant »,
verset 3, c'est-à-dire le reniement de la foi chrétienne par ce qui gardera encore, pendant quelque temps, la forme grandiose de l'édifice de la chrétienté. 2 Thessaloniciens 2, versets 2 et 3.
Ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé.
Parallèlement aura lieu le reniement de leur Dieu par les Juifs rentrés dans leur pays.
Et alors sera révélé l'inique.
De Thessaloniciens 2, verset 8. L'homme de péché, verset 3, autrement dit l'Antichrist. L'apostasie est présentement en marche, elle progresse avec rapidité, mais elle n'est pas encore ouvertement arrivée. Elle aura lieu quand la véritable Église aura été enlevée. Le développement d'une profession religieuse sans vie n'est pas encore complet, il le sera quand
celui qui retient maintenant,
le Saint-Esprit,
sera loin,
de même que
ce qui retient,
tout ce que Dieu dans son gouvernement emploie pour freiner ce développement. 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7.
Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps, car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin.
Mais le mystère d'iniquité qui opérait dès le temps de l'apôtre est prêt à surgir au grand jour. Tout se prépare activement pour l'entrée en scène de ce qu'on a appelé les grands acteurs de la crise finale, crise que résoudra l'apparition glorieuse du Seigneur. Parmi eux, Babylone la Grande. Point 3. La Grande Babylone. Comme nous venons de le rappeler, une fois l'Église véritable enlevée au ciel, la grande maison, laissée vide sur la terre, aura pour un temps la plus splendide mais la plus trompeuse apparence. L'unité du monde, dit Chrétien, se fera, oui, mais dans cette Babylone orgueilleuse, opulente, intrigante, que décrit symboliquement le chapitre 17 de l'Apocalypse, et dont le chapitre 18 évoque les richesses et l'influence sans égale. Le grandiose édifice romain, l'organisme le plus imposant du monde contemporain, solide sur sa base, difficile à entamer, au dire d'un historien compétent, subsistera avec tout son imposant appareil. C'est au sein de ce système bien des fois séculaire que s'accomplira, dans une Babel religieuse totale, Babel signifiant confusion, l'apostasie de la chrétienté. Orthodoxe, protestant, catholique, ces mots ne compteront plus. Sur le front de la grande prostituée, il y aura un nom écrit, Babylone la Grande. Cette Babylone, contrefaçon de l'épouse de l'agneau, sera étroitement associée au renouveau de l'Empire romain, contrefaçon de l'agneau lui-même. Elle détiendra un instant cette domination sur le pouvoir temporel, dont la recherche a formé la trame de l'histoire de la papauté. Elle sera
assise sur une bête écarlate,
la Rome impériale, comme
la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Elle l'a eue par moments, et plus ou moins, dans le passé, elle l'a perdue pour un temps, mais sa puissance religieuse s'est renforcée de ce repliement sur elle-même, et elle a plus que jamais mis ses valeurs spirituelles au service de son prestige dans le monde. On la voit maintenant prête à reprendre cette royauté, et les nouvelles attitudes, comme le nouveau langage de son chef, sont propres à attirer le monde moderne et à reconquérir les masses. Nous ne parlons évidemment que du système, non des personnes, ni du travail de Dieu qui emploie les instruments qu'il veut et comme il le veut, de sorte que les points capitaux du christianisme demeurent jusqu'ici enseignés, si déformés et étouffés qu'ils soient par des traditions mises au rang et au-dessus de l'Écriture. Il n'en subsistera rien quand Babylone régnera et que, sous la crosse de Rome, l'unité de la chrétienté apostate sera réalisée. Mais bientôt il sera dit
« En une seule heure, elle a été désolée. »
Apocalypse 18, verset 19.
« En une seule heure, son jugement est venu. »
Apocalypse 18, verset 10. « Le pouvoir civil, les 10 cornes de la bête, la détruira. »
Celle-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu.
Apocalypse 17, versets 16 et 17.
Sortez du milieu d'elle, mon peuple.
Il n'en sera plus temps quand le jugement fondra. la chose est dite à l'avance, comme toutes les choses dont l'ange envoyé par Jésus rend témoignage dans les assemblées. Apocalypse 22, verset 16, pour que celui qui a des oreilles et qui entend, instruit par les paroles prophétiques, prenne maintenant la position à laquelle le Seigneur l'appelle. Apocalypse 22, verset 16.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
L'injonction à se séparer du mal en 2 Timothée 2 est individuelle, mais elle est donnée pour que celui qui se sépare se retrouve avec d'autres sur le vrai et seul fondement. L'appel à sortir de Babylone s'adresse à un peuple, celui que le Seigneur désire trouver l'attendant. Seulement que ce ne soit pas là, à son tour, une simple profession. Elle serait plus coupable que toutes les autres. Affirmer d'être ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur risque de devenir une prétention sans réalité, la pire vanterie laodicéenne, et ce serait ajouter simplement un nom à l'affligeante liste des sectes que le Seigneur vomira. Il ne s'agit pas de dire seulement, mais de montrer que l'on poursuit
la foi, la justice, l'amour, la paix
d'un cœur non partagé. En est-il ainsi de nous? Je parle à ceux qui ont lieu de bénir Dieu pour leur avoir ouvert les yeux sur ce qu'est l'Église selon la parole. Reconnaissons, en nous en humiliant, que nous n'avons pas rendu ce témoignage simple et droit auquel nous avions le privilège d'être conviés. Puisque le Seigneur veut bien encore nous faire entendre sa voix pour nous rappeler sa promesse et pour nous avertir, ne fermons pas nos oreilles.
« Je viens bientôt, dit-il.
L'attendons-nous ? » Prenons garde, et il est à désirer que ceci soit particulièrement médité par la jeunesse tentée de vendre son droit de premier-né, que si nous écoutions les voix parfois émouvantes de chrétiens en quête de l'unité, nous ne ferions pas, nous, de progrès vers cette unité illusoire, mais nous reviendrions en arrière, aux sentiers incertains où ces chrétiens peinent encore, et nous nuirions aux âmes sincères au lieu de les aider. Veuille le Seigneur nous garder de nous considérer soit comme une Église, soit comme l'Église, et nous tenir attachés à lui, dans la dépendance et la soumission, pour porter le caractère de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, retiennent la précieuse vérité de sa présence personnelle dans le rassemblement, Matthieu 18, verset 20, réalise là l'unité, jouissant d'un avant-goût de ce qui sera bientôt manifesté dans la gloire, et qui poursuive, vers lui, le Christ glorifié, l'espérance de l'Église, et non vers Babylone. Matthieu 18, verset 20,
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. »
Grand E. Appendice. Babylone. Point 1. Babel, ou Babylone, forme hellénisée du nom sémitique, en chaldée, ou Shinar, a été le commencement du royaume de Nimrod, lequel commença à être puissant sur la terre après le déluge. Genèse 10, versets 8 et 10.
Et Cush engendra Nimrod, lui commença à être puissant sur la terre, et le commencement de son royaume fut Babel, et Érec et Akkad et Calné au pays de Shinar.
Le premier caractère de Babel est cette affirmation orgueilleuse de puissance devant l'Éternel. Un second, qui en procède, est la volonté humaine dressée ambitieusement contre celle de Dieu. Une association exclut l'Éternel pour contrecarrer son injonction, comparé Genèse 11, verset 4 et 9, verset 1, d'où le châtiment par la confusion. Babel, interprétation donnée expressément par l'Écriture elle-même, et la dispersion forcée, chapitre 11, verset 9, Genèse 11, verset 4,
Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre.
Genèse 9, verset 1.
Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre.
Genèse chapitre 11, verset 9.
C'est pourquoi on appela son nom Babel.
Confusion.
Car là l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
Enfin viendra l'idolâtrie dont Babylone est un centre originel. Josué 24, verset 2.
Et Josué dit à tout le peuple, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux.
Point 2. Ces caractères marquent la Babylone historique, celle de Nebuchadnetsar. Après avoir participé en tant que sujette de l'Assyrien, de Roi 17, verset 24, au châtiment d'Israël par ce dernier, elle est devenue, une fois émancipée et conquérante, l'instrument du châtiment de Juda. De Roi 17, verset 24.
Et le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babel, et de Cut, et d'Ava, et de Hamath, et de Sepharvaïm, et les fit habiter dans les villes de la Samarie, à la place des fils d'Israël. Et ils possédèrent la Samarie et habitèrent dans ces villes.
Elle ouvre les temps des nations qui durent encore, pendant lesquels Dieu, ôtant le royaume à son peuple, confie le gouvernement aux gentils, qu'il exerce sans pouvoir établir une domination stable. Babylone est la tête d'or de la grande statue de Daniel II, qui symbolise la succession des quatre empires des nations. Les prophètes mettent en évidence le luxe de la grande ville, son idolâtrie, Jérémie chapitre 50 et 51, la violence des Chaldéens, Habacuc chapitre 1, l'orgueil des rois et leur élévation contre le Dieu des cieux, dont ils profanent le temple et ce qu'ils en ont tiré. Daniel 5, versets 18 à 23.
Ô roi, le Dieu Très-Haut donna à Nebuchadnetsar, ton père, le royaume et la grandeur et l'honneur et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui donna, tous les peuples, les peuplades et les langues tremblaient devant lui et le craignaient. Il tuait qui il voulait et il conservait en vie qui il voulait. Il exaltait qui il voulait et il abaissait qui il voulait. Mais quand son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'orgueil, il fut précipité du trône de son royaume, et sa dignité lui fut ôtée. Et il fut chassé du milieu des fils des hommes, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages, on le nourrit d'herbe comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée des cieux, jusqu'à ce qu'il connût que le Dieu Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il y établit qui il veut. Et toi, son fils Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu aies su tout cela, mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté devant toi les vases de sa maison, et toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent et d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient et n'entendent et ne comprennent point. Et le Dieu en la main duquel est ton souffle, et à qui appartiennent toutes tes voix, tu ne l'as pas glorifié.
Sa chute par le moyen des Mèdes et des Perses met un terme à la captivité de Juda, mais les empires qui suivent, quels que soient leurs traits respectifs, restent solidaires du caractère initial, car la statue est une. Point 3. Voilà pour le passé. Dans l'avenir, l'Apocalypse reprend le nom de Babylone la Grande, voire Daniel 4, verset 30, pour l'appliquer symboliquement à la femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Apocalypse 17, verset 3. Daniel 4, verset 30.
Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume ? Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. »
Apocalypse 17, verset 3.
Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Nous sommes là dans la période des choses qui doivent arriver après celle-ci, mais où celle-ci aboutissent une fois close l'ère de l'Église, laquelle n'appartient pas à la prophétie. L'agneau glorifié a pris le livre et en rompt successivement les sceaux. Le 4e empire, l'Empire romain, revit. C'est la bête qui était et qui n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Apocalypse 17, verset 8.
La bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente.
Apocalypse 17, verset 11.
Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps.
Babylone la grande, la grande prostituée, lui est associée pour un temps, avec des traits moraux de la tête d'or de jadis, orgueil, idolâtrie, persécution des saints. Mais il s'agit là d'un mystère, d'une puissance qui prétendra exercer la domination au nom d'une religion, en réalité dans l'apostasie complète, de sorte que la bête qui la porte est pleine de noms de blasphème. Elle est installée sur les 7 montagnes qui désignent sans erreur possible Rome, et elle a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17, verset 9.
Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise.
Apocalypse 17, verset 18.
Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Elle s'attribue mensongèrement la place de l'épouse qui régnera avec Christ, alors qu'elle n'est qu'une prostituée entretenant des relations impures avec les potentats, séduit par ses dehors et asservi par sa magie. Apocalypse 17, verset 4.
Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication.
Apocalypse 18, verset 23.
Et la lumière de la lampe ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus oui en toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, car par ta magie toutes les nations ont été égarées.
Elle mettra son étonnante organisation ecclésiastique et son emprise spirituelle sur les masses, elle est assise sur plusieurs eaux, à la disposition du pouvoir civil, mais elle utilisera celui-ci, en retour, pour accroître encore ses richesses et son prestige. Bref, elle portera à son apogée une profession religieuse, rassemblant sous la pourpre et l'écarlate romaine les confessions entre lesquelles la chrétienté d'aujourd'hui se partage, et dont tout christianisme aura alors disparu, sombré dans l'apostasie commune. Ce système corrompu et corrupteur sera bientôt trouvé tyrannique par ceux mêmes qui en auront profité, et le pouvoir politique, les 10 rois et la bête, le haïra, finira par le dépouiller de ses richesses et de son influence, et enfin le détruira. Apocalypse 17, verset 16.
Et les 10 cornes que tu as vues et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu.
Sa chute, déplorée par tous ceux qui vivaient de son luxe, et plus généralement par tous les tenants de la civilisation qu'elle régissait, sera célébrée avec joie dans le ciel, comme le signal des noces de l'agneau et de sa manifestation en gloire. Chapitre 18 et chapitre 19, versets 1 à 5.
Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel disant « Alléluia ! Le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes. car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses esclaves, le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône, disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, petits et grands. »
Point 4. Mais, une fois la chrétienté disparue, le nom et l'esprit de Babylone se retrouvent au cours des événements prophétiques qui suivront et qui convergeront dans le grand jour de l'Éternel, où se succéderont les jugements finaux sur les ennemis de Christ et de son peuple, le résidu fidèle. Ces jugements, différents selon les ennemis, seront tous exécutés sur le territoire d'Israël ou ses confins, et donc objet de convoitise et de compétition où les peuples et leurs chefs seront rassemblés pour être détruits. Or la prophétie, peut-être la plus remarquable à cet égard, est l'oracle sur Babylone en Ésaïe chapitre 13 et chapitre 14. S'il traite du jugement de la Babylone historique, encore future quand le prophète écrivait, ce jugement lui-même n'est qu'une figure de l'avenir, et nous avons là un grandiose tableau synthétique de la crise dernière, quand aura lieu, dans le tumulte et la confusion de Babel, le rassemblement dont nous venons de parler. Assemblés, pour être forts, Joël chapitre 3 versets 9 à 12, en grande confédération rivale, mais en réalité tous dressés contre Christ, les peuples groupés se croiront invincibles. Joël 3 versets 9 à 12.
Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les hommes forts, qu'ils approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos socs forgez des épées et de vos serpes des javelines, que le faible dise « Je suis fort », accourez et venez, vous, toutes les nations, de toutes parts, et rassemblez-vous. Là, Éternel, fais descendre tes hommes forts, que les nations se réveillent et montent à la vallée de Josaphat, car là je m'assierai pour juger toutes les nations de toutes parts.
Ils diront « Paix et sûreté », et voici,
une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point.
1 Thessaloniciens 5, verset 3. Trois grands ennemis sont placés sous les malédictions prononcées contre Babylone dans cet oracle. Premièrement, le chef de l'Empire romain et ses armées, dont Apocalypse 19, versets 11 à 21, montre la défaite à Armageddon, par le roi des rois, sortant du ciel avec ses armées et jetant la bête, avec le faux prophète, dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 19, versets 11 à 21.
Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable, et il juge et combat en justice, et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul, et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu, et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtu de fin lin, blanc et pur, et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pétra avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, disant à tous les animaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des filiarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées, assemblés pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu, embrasés par le soufre. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair.
Son association antérieure avec la chrétienté apostate l'a fait participer au caractère de Babylone. D'autre part, ce qui est détruit alors ce sera, frappé par la pierre détachée sans main, la statue dont, ne l'oublions pas, Babylone est la tête d'or. La chute de la Babylone historique et le retour de la captivité grâce à Cyrus n'ont que très partiellement accompli Ésaïe 14, versets 3 à 11.
Et il arrivera au jour où l'Éternel te donnera du repos de ton labeur et de ton trouble et du dur service auquel on t'a asservi, que tu prononceras ce cantique sentencieux sur le roi de Babylone, et tu diras: comment l'oppresseur a-t-il cessé? Comment l'exactrice a-t-elle cessé? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait de coups les peuples sans relâche, dominant les nations dans sa colère, et poursuivit sans trêve. Toute la terre est en repos et tranquille. Elle éclate en chants de triomphe. Les cyprès aussi se réjouissent de toi. Les cèdres du Liban, depuis que tu es tombé, l'abatteur n'est plus monté contre nous. Le Shéol d'en bas s'émeut pour toi, te rencontrant à ta venue, réveillant pour toi les trépassés, tous les boucs de la terre, faisant lever de leur trône tous les rois des nations. Tous ils prendront la parole et te diront: toi aussi, tu as été rendu faible, comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ton orgueil est descendu dans le Shéol, le son de tes luttes. Les vers sont étendus sous toi, et les larves sont à couverture.
C'est à Armageddon que sera brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs, de façon totale et définitive. Ainsi sera clos le temps des empires des nations, babyloniens dans leur principe même. Deuxièmement, en même temps sera détruit l'Antichrist, l'inique, l'homme de péché, le fils de perdition, le roi en Judée, le faux prophète qui aura exercé la puissance de Satan au profit du pouvoir impérial romain. On a pu penser, citation de J.N. Darby, qu'il y aura quelque étrange union, sous l'influence séculière agissant de concert avec le faux Messie, voir Apocalypse chapitre 13 et 2 Thessaloniciens 2, entre le romanisme idolâtre et le judaïsme idolâtre. Fin de citation. Il se peut aussi que l'Antichrist ne se démasque pleinement comme faux prophète qu'après la fin de la chrétienté. Il n'est appelé faux prophète qu'en Apocalypse chapitre 19 verset 20 et chapitre 20 verset 10.
Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête.
Apocalypse 20, verset 10.
Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Il exerce alors la séduction d'injustice, d'origine diabolique, aussi bien dans l'Empire romain, Apocalypse 13, versets 12 à 16, qu'en Judée, Daniel 11, versets 36 à 39, et 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Apocalypse 13, versets 12 à 16.
Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes, et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front.
Daniel 11, versets 36 à 39.
Et le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera, et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Car ce qui est déterminé sera fait, et il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout, et à sa place il honorera le Dieu des forteresses, avec de l'or, et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables. Il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères, et il agira dans les lieux forts des forteresses, avec un Dieu étranger, à qui il reconnaîtra, il multipliera la gloire, et il les fera dominer sur la multitude, et leur partagera le pays en récompense.
De Thessaloniciens 2, verset 4.
Le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.
Il bénéficiera de l'apostasie aussi bien chrétienne, il nie le Père et le Fils, que judaïque, il nie que Jésus soit le Christ, selon 1 Jean 2, verset 22.
Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils.
On ne peut manquer de le reconnaître en Ésaïe 14, versets 12 à 20, dans cet astre brillant, fils de l'aurore, qui prend faussement la place de Christ. Versets 13 et 14. Comme la grande prostituée a pris celle de l'Église, et dont l'image se superpose pour ainsi dire à celle de la bête et à celle de Babylone, dont le roi est évoqué au verset 16 et 17. Ésaïe 14, versets 12 à 20.
Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation, au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Toutefois, on t'a fait descendre dans le Shéol, au fond de la fosse. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi. Ils te considèrent, disant, est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a fait du monde un désert et qui ruinait ses villes? Ses prisonniers, ils ne les renvoyaient pas chez eux. Tous les rois des nations, eux tous, reposent dans leur gloire, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté hors de ton sépulcre, comme une branche qui fait horreur, recouvert de tuées, percé par l'épée, descendu jusqu'aux pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu ne seras pas réuni avec eux dans le sépulcre, car tu as ruiné ton pays, tu as tué ton peuple. De la race des méchants, il ne sera jamais fait mention.
Troisièmement, enfin, dans le même oracle sur Babylone, l'Assyrien et toutes les nations associées à lui, qui ont asservi Israël, apparaissent aussi. On sait que l'Assyrien est le grand ennemi du peuple de Dieu, et le dernier, après avoir été le premier, avant que le gouvernement eût été confié aux empires des nations. Il pensera disputer le pays de beauté à la bête romaine et se le soumettre. La puissance occidentale détruite, il poussera ses avantages et assiégera Jérusalem, mais pour être anéanti là, par Christ, quand ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Zacharie 14, verset 4.
Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, vers le levant et vers l'occident, une fort grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, et la moitié vers le midi.
Un peu plus tard, les nations associées seront détruites dans le pays d'Édom. Tout cela est évoqué en Ésaïe chapitre 13 et chapitre 14. La Chaldée fera partie de cette confédération assyrienne, comme autrefois elle fit partie du royaume de Ninive, mais surtout elle lui conférera son caractère fondamental de confusion. Ésaïe chapitre 13 versets 2 à 8. Lors de ce conflit final avec le Messie rédempteur de son peuple. Ésaïe 13 versets 2 à 8.
Élevez un étendard sur une montagne nue, élevez la voix vers eux, secouez la main, et qu'ils entrent dans les portes des nobles. J'ai donné commandement à mes saints, j'ai appelé aussi pour ma colère mes hommes forts, ceux qui se réjouissent en ma grandeur. La voix d'une multitude sur les montagnes, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux, l'Éternel est les instruments de son indignation pour détruire tout le pays. Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches, et tout cœur d'homme se fondra, et ils seront terrifiés. Les détresses et les douleurs s'empareront d'eux, ils se tordront comme celles qui enfantent. Ils se regarderont stupéfaits, leurs visages seront de flammes.
Babylone enfin sera, comme Édom, définitivement détruite, alors que les autres nations soumises revivront dans le règne millénaire. Jérémie 50, versets 26 à 32.
Venez contre elle de toutes parts, ouvrez ses granges, entassez-la comme des gerbes, et détruisez-la entièrement, qu'elle n'ait rien de reste. Tuez tous ces taureaux, qu'ils descendent à la tuerie. Malheur à eux, car leur jour est venu, le temps de leur visitation. La voix de ceux qui fuient, qui sont réchappés du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Convoquez des archers contre Babylone, tous ceux qui bandent l'arc. Campez contre elle tout alentour. Qu'elle n'ait pas de réchappée, rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle a été fière contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans ces places, et tous ces hommes de guerre seront détruits en ce jour-là, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est venu, le temps où je te visite. Et l'orgueilleuse a bronché et est tombée, et il n'y a personne qui la relève, et j'allumerai dans ces villes un feu qui dévorera tous ses alentours.
Ésaïe 13, versets 19 et 20.
Et Babylone, l'ornement des royaumes, la gloire de l'orgueil des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorre. Elle ne sera jamais habitée, et on n'y demeurera pas de génération en génération, et l'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas reposer leurs troupeaux.
Ne nous y trompons pas, tout ce que les hommes essaient de mettre sur pied en s'unissant comme autrefois les gens de la plaine de Shinar, afin de se faire un nom et n'être pas dispersés, prépare en réalité cette ultime confusion des peuples qui se manifestera toujours davantage quand il n'y aura plus ce qui retient. Elle aboutira à la subversion de toutes les puissances terrestres. Babel est le sceau commun qui leur est appliqué par Dieu. Elles se dresseront, diversement et toutes ensemble,
contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère. Et dans sa fureur il les épouvantera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Et maintenant, ô roi, soyez intelligent.
Psaume 2.